Je vous invite à ouvrir vos Bibles ce soir dans le premier chapitre de Jérémie. La semaine dernière, nous avons fait une introduction à ce livre, un peu qui était Jérémie, quelle était l'époque où il a vécu, sa personnalité, son message, la situation dans le royaume quand il a prophétisé, c'est un prophète qui pleure. C'était un prophète qui avait beaucoup de mal, beaucoup de peine pour son peuple. Et dans le premier chapitre, on a son appel. Alors, certains ici, vous sentez l'appel. Vous dites, je crois que Dieu m'appelle à son service, à être un porte-parole pour lui. Et l'appel de Jérémie est très riche et devrait servir pour chacun d'encouragement. Parole de Jérémie, fils de Hilkijah, l'un des sacrificateurs d'Anatote dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur Éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer de l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion de l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. Contre les rois du Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Quel appel! Alors quand j'ai entendu un peu de bruit, quand le Seigneur dit à Jérémie, lève-toi, c'est un de ces fameux lève-toi, dont on a entendu parler à cette convention missionnaire le week-end dernier. Oui, eh bien Dieu a dit à des jeunes de se lever, c'était un jeune, peut-être un adolescent, peut-être 20 ans, tout juste, très jeune. Très jeune, et il dit, quand il dit « je suis un enfant », il voulait dire « je n'ai pas de maturité, je n'ai pas 30 ans, je ne suis pas en position de prophétiser, de dire quoi que ce soit, d'enseigner mon peuple ». Normalement, on n'engageait pas un ministère avant l'âge de 30 ans. Et mais Dieu ne suit pas toujours les règles des hommes. Il a choisi souvent des gens bien plus jeunes comme porte-parole. Quand je suis arrivé en France, bien sûr, j'avais juste 17 ans, et je me souviens de ce qu'avait dit notre formateur sur Somerville. Il a dit, mais les jeunes sont des champions olympiques. Les jeunes font des exploits dans le monde. Et pourquoi ils le feraient dans le monde et pas pour Christ? Et il disait, on peut faire confiance aux jeunes. Si un jeune homme ou une jeune fille est consacré, on peut lui confier des responsabilités dans la lutte. Dieu peut parler à travers lui. Et donc, la jeunesse n'est pas du tout un handicap. Au contraire, ça peut être un avantage. Dans les versets 1 à 3, on voit le moment de son appel. Il commence la 13e année du règne de Josias. Josias a régné quelques 20... Qu'est-ce qu'il a régné? Entre 20 et 30 ans. Et la 13e année de son règne, il commençait déjà le réveil. C'était surtout le 18e année de son règne que vraiment le réveil est venu, mais Josias était vraiment près de Dieu, et à ce moment-là, c'était Ilkijah, Josias était dirigé par un sacrificateur qui travaillait avec lui, et à l'âge de 8 ans, il accède au trône, et vers l'âge de 26 ans, il commence le réveil. Donc, Jérémie va commencer 5 ans avant le réveil que Josias va mettre en place. Et peut-être que Jérémie va contribuer à éveiller Josias, qui va lui secouer le peuple. Et donc, 5 ans après le début du ministère de Jérémie, il voit un grand réveil qui éclate. Vous pourriez dire, mais c'est merveilleux, ça y est, j'ai la victoire. Mais Dieu lui dit, en l'appelant, que surtout il va prêcher le jugement. Et après ce temps de réveil dirigé par Josias, et après la mort de Josias, ça retombe dans l'apostasie, ça retombe dans l'idolâtrie, et le jugement approche. Il se peut que les 3 premiers versets, on voit que c'est un peu une introduction, il se peut que cette introduction ait été écrite par Jérémie vers la fin, vous savez, une fois qu'il avait fini son livre, pour introduire, dire en fait ça c'était, voilà le temps où j'ai prophétisé et voilà la période couverte par ce livre. Ça c'est le moment de son appel, maintenant la manière de son appel. On voit dans les versets 4 et 5, Dieu a su à l'avance la préscience de Dieu. Dieu savait à l'avance que ce garçon viendrait à naître, et Dieu l'a prédestiné à être prophète. On parle parfois de la prédestination. Quelquefois, ce qu'on appelle les calvinistes disent Dieu prédestine les gens au salut ou il prédestine les gens en enfer. Il y en a même fort peu qui croient ça, c'est une hérésie, la double prédestination. Mais ce n'est pas ça. La prédestination, c'est le décret par lequel, pour nous, hein, pour nous se sauver, c'est le décret par lequel Dieu a décidé que chaque personne qui vient à Jésus-Christ finit au ciel. La destination, c'est le ciel. Et cette destination est préétablie. Si vous entrez en Jésus-Christ, vous finissez au ciel. Rien ne peut changer cela. C'est la prédestination. Mais Dieu prédestine aussi des gens au service. Il avait décidé que ce Jérémie serait son serviteur. Donc, celui qui reçoit un appel, avec confiance, il peut dire, Dieu m'a fait naître pour le servir. Il m'a fait naître, il m'a montré son salut, mais il avait en vue que je le serve. Il a en vue que tous ses enfants le servent. Mais là, il s'agit d'un porte-parole, un serviteur de Dieu, dûment consacré. Dieu l'avait choisi. Celui qui annonce la parole de Dieu avec fidélité peut dire avec confiance, je fais ce pourquoi Dieu m'a fait venir au monde. Je suis en train d'accomplir le destin établi par Dieu. Dieu m'a préparé à cela. Dieu l'établit dans sa fonction. Pauvre Jérémie dit, je suis trop jeune, je suis un enfant. Et Dieu dit, ne dis pas que tu es enfant. Dieu ne veut pas dire que Jérémie n'est pas un enfant, mais Dieu ne veut pas que Jérémie se considère comme un enfant. Il ne veut pas que Jérémie regarde trop sur sa jeunesse. Il ne veut pas que Jérémie, en commençant à prêcher, excusez-moi d'exister, mais je suis tout jeune, mais bon, si je puis passer quelques mots, si vous les aimez, vous pouvez... Non. Je dis non, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi jeune, plus jeune, un jeune serviteur, ça me va bien. Je t'ai choisi jeune, il n'y a pas de problème, tu es mon serviteur. Tu n'as pas d'autre vieux. Ce n'est pas ta maturité qui fait que tu es mon serviteur, c'est mon appel qui fait que tu es mon serviteur. C'est très important. Parce que un jeune, vous savez, ne sait rien, hop, c'est pas lui de se défendre. Mais il ne faut pas non plus qu'il aille se cacher, qu'il se débile, comme on dit, vous dire, ah ben ça y est, les gens vous trouvent trop jeune. Peut-être que certains vous trouvent trop jeune. Mais si Dieu vous trouve à son service, vous n'êtes pas trop jeune. Et si les gens vous posent des questions, montrez-leur Jérémie chapitre 1 et en Timothée 4, 12, que personne ne méprise ta jeunesse. Mais c'est un ordre. Alors, verset 6, bien sûr, le prophète est conscient de sa faiblesse et de sa jeunesse. C'est important aussi. Si on commence à se présenter, je suis serviteur de Dieu, attention, à genoux, vous allez m'écouter. Orgueil, le serviteur n'aura plus la puissance de Dieu. C'est à Dieu de dire, je t'ai établi. Et c'est au prophète de dire, je suis faible. Ne pas compter sur lui-même, mais de compter sur Dieu. Cette humilité, un vrai serviteur de Dieu qui marche avec Dieu sera humble. Il sera humble, il n'aura aucune illusion en ce qui le concerne. Il ne se prend pas pour plus qu'il n'est. Il est conscient de ses faiblesses. En même temps, il est conscient de l'appel de Dieu et que tout vient de Dieu, la puissance doit venir de Dieu et pas de lui. Donc ce courage et cette humilité, ensemble, font la marque d'un vrai appel. Et dans les versets 7 et 8, Dieu lui impose l'appel. C'est Dieu dans sa souveraineté lui impose son appel. Mais Dieu soutiendra son serviteur. Si Dieu vous impose quelque chose, il vous soutiendra dans ce qu'il vous a imposé. Dans le verset 7, c'est « Je t'impose, tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. » Mais verset 8, c'est « Ne les crains pas, je suis avec toi pour te délivrer. » Voyez ? Nous avons un cantique écrit par David Livingstone et dans le cantique il dit « J'irai où tu voudras, mais accompagne-moi, charge-moi comme tu voudras, mais soutiens ma foi. » Vous voyez, c'est « Fais peser ton appel sur moi, mais soutiens-moi par en dessous. » Et c'est ce qui nous permet de continuer. Ça, c'est la manière de son appel. Les moyens de son appel. Regardez le verset 9. Comment il va faire? Quels sont les moyens qu'il va utiliser? Eh bien, Dieu dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. C'était nécessaire, on n'avait pas toute la Bible. Quand Jérémie dit ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi, c'est à dire l'Éternel. Mot à mot. Beaucoup, c'est de la dictée. Ou pratiquement, puisque ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, qui dit, moi l'Éternel, je dis, et puis vous ouvrez les guillemets. Dieu lui révélait, mot à mot, ce qui devait dire. Chaque mot est inspiré de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Dieu dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Mes paroles, c'est la parole de Christ, la parole de Dieu. Et il dit en Romains chapitre 10, ne dis pas, est-ce que c'est au ciel, pourquoi aller le chercher, au fond, dans les profondeurs de la terre, pour qu'on aille récupérer? Non, la parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole que nous professons, si tu confesses de ta bouche. C'est la parole de Dieu, qui est devant nos yeux, qui entre dans nos yeux, qui sort par notre bouche. Et quand nous sommes porte-parole aujourd'hui, nous sommes porte-parole de Dieu en apportant la parole de Dieu, la Bible. Donc, il est ses paroles, et c'est la Bible qui donne l'autorité, ce n'est pas la personnalité de l'homme. Dieu promet également pour cet homme sa protection et sa préservation, pour aussi longtemps que cet homme doit le servir. Dans les versets 18 et 19, vous dites, mais ce n'est pas possible. C'est un homme tout frêle, tout jeune, tout penaud, timide, et Dieu dit, je vais faire de toi comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. On a l'impression, ah, je vous mets au défi de m'ébranler. Je suis un mur d'airain. Un mur d'airain, vous ne le cassez pas. Un mur en martin, c'est pas bon de le casser. Mais un mur d'airain, vous ne pouvez rien y faire. Et je dis, c'est moi qui te vais te rendre dur et inflexible. Tu vas leur dire la vérité de mon jugement qui va tomber sur eux. Ils vont pleurer, tu vas continuer. Ils vont te haïr, tu vas continuer. Ils vont te menacer, tu vas continuer imperturbable. Enfin, imperturbable, ils pleurent quand même. Mais ils n'arrêtaient pas, ils ne changeaient pas son message pour plaire à son auditoire. Et Dieu dit, c'est moi qui vais te protéger. Dans le verset 17, Dieu lui ordonne de se lever. Alors, toi, Saint-Terrain, vous connaissez un peu cette expression, cindre les reins? C'est quand au Moyen-Orient, quand on était chez soi, eh bien, on portait la robe, enfin, une longue tunique qui allait jusqu'aux chevilles, généralement, et on enlevait la ceinture, et on se promenait dans le calaise, dans ses vêtements amples pour se coucher là au salon, se mettre sur le divan à côté de la table, on était bien, on était chez soi. Mais quand on devait sortir et faire une course ou aller en ville ou quoi que ce soit, on prenait sa ceinture qui souvent contenait divers objets et de l'argent, et on montait la robe au niveau des genoux et on mettait cette ceinture et là on était prêt à marcher. On saignait ses reins, donc une ceinture au cul là, et là on était prêt à marcher avec justement qu'il fallait pour avancer. Et donc Dieu dit, quand il dit ça, les reins, c'est comme si nous étions sur un fauteuil et le Seigneur dit, allez, debout, mets tes chaussures, allez, on va partir, mets-toi en tenue, on va. Saint-Terrain, ça veut dire, fais attention, réveille-toi, lève-toi, devant moi, je te donne un ordre. Et tu as bien intérêt à écouter. Saint-Terrain. Et c'est ce qu'il dit à Jérémie. Allez, lève-toi. Et tu vas dire ce que je t'ordonne. Il fallait qu'il soit discipliné, vigilant, et il ne fallait rien omettre. Il fallait tout dire de ce que Dieu lui disait de faire. C'est certain. Dieu dit, j'ai besoin d'un porte-parole, ça va être toi, et ne discute pas, tais-toi, lève-toi, viens ici, je vais te protéger, je t'envoie, tu dis ça de ma part. Les moyens de son appel. Ensuite, il y a le message de son appel. Alors, dans les versets 11 et 12, on a une première vision. On a peut-être la première vision que Dieu donne à Jérémie. Que vois-tu? Une branche d'amandier. Alors, le mot amandier signifie celui qui se réveille. Et c'est intéressant que l'amandier, c'est le premier arbre qui fleurit au printemps. Avec des petites fleurs blanches. Celui qui se réveille. On appelait parfois le prophète le voyant. Celui qui se réveille, la sentinelle, qui regardait, il était réveillé. Il était conscient du danger. Il était auprès de son peuple. Il voyait le danger, le péché, la tentation qui arrivait, les ennemis qui arrivaient, les menaces. Dieu les menaçait aussi. Attention! Et il disait, attention! Tu dis, allez, danger, allez, repentez-vous, celui qui veille. Le pasteur est appelé le surveillant, va veiller sur le troupeau, voir comment les gens vont, s'occuper d'eux, veiller. C'est également, l'amandier, c'est Aaron, il avait un bâton d'amandier, de bois d'amandier, qui a fleuri, qui a porté des boutons, des fleurs et des fruits. En lui.
Cet amandier, avant, c'était la preuve que c'était Aaron qui était choisi pour être son sacrificateur et pas quelqu'un des, autres, des 11 autres tribus. Donc, la branche d'amandier, c'est à la fois, c'est toi qui es choisi, et il faut que tu veilles pour que tu sois ouvert, l'œil ouvert, et il faut que tu sois là. Aussi, comme l'amandier est le premier arbre à fleurir, Dieu indique par ça, quand je donne un message, je l'exécute promptement. Je ne prends pas du retard. Je ne diffère pas. Si ça va tomber, ça va tomber. Et donc c'est sérieux. Avant, je l'amandier. Ensuite, il y a une deuxième vision, c'est la chaudière. Alors il dit, je vois une chaudière bouillante. Et le mot bouillante signifie littéralement soufflez pas en dessous. C'est-à-dire, vous avez une chaudière, vous avez un feu, puis vous avez quelqu'un qui souffle sur le feu. Alors le feu devient de plus en plus vif et ça fait bouillir ce qu'il y a dans la chaudière. Donc l'idée ici, c'est que Dieu est en train de souffler le feu de sa colère. Ça fait bouillir la chaudière. Donc vous avez un bouillonnement dans cette chaudière. Et qu'est-ce qui arrive? Cette chaudière se renverse. C'est dangereux. Vous avez une grosse chaudière pleine d'eau bouillante. Et si cette chaudière se renverse, et cette eau bouillante part, et les gens devaient être vraiment très blessés par cette eau bouillante. Et c'est sous cette forme que Dieu dit à Jérémie qu'il va juger Israël avec des peuples du Nord. Alors déjà les Assyriens étaient passés par là, mais vous avez un autre peuple qui va venir par le Nord, c'est Babylone. Mais vous dites, mais Babylone, c'est pas au Nord. Babylone est à l'Est, c'est vrai. Mais les Babyloniens sont montés par le croissant fertile et sont descendus par le Nord. Tous les gens de l'Est, express, passés par entre le Tigre et l'Euphrate, passés par la Syrie, par le Liban et descendus par le Nord en Israël. Et donc ils sont arrivés par le Nord. Et c'était le peuple de Babylone qui allait venir et se répandre comme de l'eau chaude, comme de l'eau bouillante, pour ébouillanter, pour détruire toutes ces villes de Juda. Et donc, il donne une vision du siège. Versets 15 et 16, ils viennent et ils assiègent les portes de Jérusalem et toutes les villes de Juda. Donc, vous imaginez, en voyant, toutes les villes fortifiées sont assiégées par des armées. À l'intérieur de ces villes, il n'y a plus de nourriture. Les gens commencent à faire des choses innommables, tellement ils n'ont pas. Chaque ville est réduite à la dernière extrémité. Les gens n'en veulent plus. Et puis les Babyloniens sentent que c'est le temps d'aller à l'assaut final, de détruire la ville, de massacrer les habitants et de prendre quelques-uns en captifs et les amener en Babylone. C'est une horrible manière d'être pris. Mais c'était Deutéronome 28. C'était exactement l'accomplissement de cette prophétie-là. C'est ça qu'il doit leur annoncer. Il doit leur annoncer, vous serez assiégés par les gens venus du Nord, vous mourrez de faim, et ces gens-là détruiront vos villes et vous amèneront en captivité. Ça, c'est le message qu'il a prêché jusqu'à l'accomplissement. Et Jérémie va voir l'effet de ça arriver, et il va vivre ce siège. Mais Dieu va le protéger, mais il va vivre cette horreur avec son peuple. Pour terminer, il y a six verbes, verset 10. C'est son action. Il y a quatre verbes de destruction et deux verbes de construction. Donc, Dieu dit à Jérémie, tu auras surtout un message de jugement à porter. C'est terrible. Hein? Nous, on a surtout un message de joie et de pardon. Nous avons une bonne nouvelle. Jérémie allait passer sa vie à donner une mauvaise nouvelle à des gens qu'il aimait. Il ne voulait pas qu'ils souffrent, pourtant, il fallait que ces gens-là soient punis. Quel triste destin de vivre toute sa vie pour annoncer ses malheurs. Et les quatre verbes d'instruction précèdent les verbes de construction. Vous avez vu arracher, abattre,
ruiner, abattre, ruiner, détruire. Et ensuite, bâtir et planter. C'est mieux que le contraire. Tu vas d'abord planter, bâtir et après tout va se détruire. Non, où tu vas? D'abord, tout va se détruire et après on va reconstruire. Et là, comme tous les autres prophètes, il va annoncer un jugement, une ruine dans un premier temps, suivi d'une restauration. Suivi d'une restauration dans le pays et là, le pardon et la faveur de Dieu. Construction, plantation. La construction de villes, de maisons, d'infrastructures et plantation, agriculture. Ils sont revenus après les 310 ans. Ils ont reconstruit la muraille de Jérusalem. Ils ont reconstruit le temple. Ils ont reconstruit leur maison. Ils ont replanté leur jardin. Ils sont devenus prospères. Aujourd'hui, depuis 50 ans, 60 ans, Israël, c'était une ruine. Ça n'avait pas été correctement exploité depuis 18 siècles. Les Juifs reviennent de partout, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Les survivants. La Galilée, Martin Foucault, tout ça, c'était un immense marécage rempli de moustiques et de paludisme. En bas, c'est un désert où rien ne pousse. Et les Juifs ont retroussé leur porte israélienne et ils ont commencé à travailler. Et aujourd'hui, ils exportent des fruits dans le monde entier. Ils ont trois récoltes par an. C'est eux qui ont inventé le goutte à goutte, l'irrigation goutte à goutte. Pas une goutte d'eau n'est perdue. Chaque goutte contribue à une plante. Et en haut, c'est magnifique. Ils ont un tout petit pays. Ils arrivent à tirer tellement de choses de ce pays. C'est inimaginable. Et donc, ils ont reconstruit. D'ailleurs même, et sans faire politique, le peu de terrain qu'Israël a est magnifiquement bien entretenu, bâti, prospère. On se demande comment ils font, et autour, les autres peuples, mais c'est encore désertique, c'est désorganisé, c'est pas du tout la même tenue. Dieu a permis qu'ils reconstruisent et qu'ils replantent.
Donc il y a une restauration. Et ça devait sans doute encourager Jérémie. Notre message est le même. On prêche non pas d'abord Dieu vous aime, Dieu on dit Dieu vous aime. On dit Dieu ne vous sauve pas. Non, d'abord on dit Dieu vous trouve pécheur et vous appelle à la repentance. C'est détruire. Si vous vous repentez, vous serez pardonné et restauré, c'est rebâtir. Détruire l'orgueil, détruire la religion. Détruire la fausse confiance pour bâtir une foi sainte. C'est le message que Jérémie allait annoncer et que Dieu lui dit tout cela dans le premier chapitre. Prions. Merci pour cet appel de toi, Seigneur, envers ce jeune Jérémie. En quelques mots, tu lui as dit ce à quoi il servirait, quel serait son message, à quoi il pouvait s'attendre. Et c'est arrivé exactement comme tu lui as dit. Merci parce qu'après ton jugement, il y a la restauration. Même pour nous, notre péché, ce n'est pas la fin de notre parcours. On peut être restauré, pardonné, réhabilité et réutilisé grâce à toi. Merci pour ces instants ensemble, par Jésus-Christ. Amen.